Merci d'être à l'écoute de CFM Radio et dans le magazine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui nous concerne absolument tous, la défense des consommateurs. On parle ici que ce soit des arnaques en ligne, des démarchages abusifs, des faux investissements, des arnaques liées aux travaux, notamment de rénovation ou autres relations, avec bien souvent des artisans, on va dire, frauduleux et des litiges du quotidien. Les pièges sont de plus en plus nombreux et sophistiqués, hein, vous vous en rendez compte peut-être au travers de tous les appels que vous recevez à partir de 18h. Et pour en parler, nous recevons des bénévoles, hein, d'une association qui milite, hein, pour le droit des consommateurs depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est l'UFC Que Choisir. Nous sommes en compagnie des secrétaires de l'antenne départementale de cette association. Il y a Josette qui est avec nous. Bonjour Josette.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis également avec nous, c'est Christian, co-secrétaire de cette association UFC Que Choisir. Bonjour Christian.
Bonjour.
On va commencer peut-être par rappeler qu'est-ce que c'est UFC Que Choisir, Christian.
L'UFC Que Choisir est une association départementale qui nous concerne. Et c'est une association qui est là pour la défense des consommateurs, c'est-à-dire défense du consommateur par rapport à un artisan, défense du consommateur par rapport à un domaine de l'énergie, par rapport au domaine de la télécommunication, par rapport aux assurances, par rapport aux banques. Mmh. Voilà, on défend les consommateurs par rapport à des professionnels.
À des professionnels,
oui. On ne s'intéresse pas à la défense du consommateur par rapport à un consommateur, par rapport à un particulier.
D'accord, d'accord.
Ça ne concerne que les professionnels.
Ça fait des dizaines d'années que cette association existe et qui porte bien souvent la parole des consommateurs, même au niveau national, hein, pour faire des fois bouger des lois, pour faire bouger aussi des méthodes abusives commerciales.
Oui, l'association nationale est une association complètement indépendante. Et c'est vrai qu'avec la remontée des litiges des associations locales, l'association nationale a un poids assez important au niveau national et peut faire éventuellement évoluer des
pratiques, des mentalités. Absolument. Vous tenez votre assemblée générale à la fin de ce mois, ce sera le 27 février, l'occasion non seulement de parler du bilan de l'association, hein, de parler aussi de l'actualité des arnaques, parce que c'est le moment aussi de sensibiliser tout un chacun sur les arnaques qui évoluent au gré aussi, que ce soit de la technologie ou de l'inventivité de certaines personnes. Et sans parler forcément d'arnaques, il s'agit aussi de sensibiliser les consommateurs sur ce à quoi ils ont droit. On reviendra sur cette assemblée générale, mais j'aimerais d'abord, Josette, peut-être que l'on aborde quelques arnaques les plus courantes actuellement, parce que tout cela change et on a l'impression qu'elles se multiplient. Est-ce qu'on peut parler d'arnaques les plus fréquentes dans notre région ?
Oui, parmi les arnaques donc les plus fréquentes, on a toujours les arnaques financières, c'est-à-dire les gens qui vous contactent et dont le seul but, c'est de vous voler de l'argent. Par quel que soit le moyen, soit par ce qu'on appelle le hameçonnage, donc, ou le phishing, hein. C'est un appel, donc un appel ou un SMS, donc ça peut être aussi donc un mail, et par ce biais-là, donc on va essayer, avec des méthodes très très astucieuses, de récupérer toutes vos données bancaires et de vider votre compte. Ça peut être donc très très rapide. Alors ça peut être donc ce qu'on a connu les plus... Enfin, qui date depuis un certain temps, mais qui se renouvelle parce que ça revient quand même sur tous les jours. On a donc la fausse amende à payer. On vous dit que vous avez une amende à payer, que vous la payez tout de suite parce qu'autrement, vous allez
prendre
des risques importants. Mmh. La fausse carte vitale, il faut payer, il faut renouveler la carte vitale, ce qui n'est absolument pas possible. Vous avez le problème donc du livreur qui ne peut pas rentrer le colis dans votre boîte aux lettres et il faut donc payer un petit quelque chose. C'est des sommes très peu importantes parce que la somme, là, elle n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, c'est le fait que vous allez, pour répondre à la demande qui vous est faite, rentrer toutes vos données bancaires et c'est ceux qui veulent pirater, quoi. Le reste, ça n'a pas d'importance, voilà. Et la dernière en date, vous avez dû voir certainement, puisque les journaux en ont parlé ces jours-ci, ils ont, comme le téléphone, et c'est un petit peu maintenant galvaudé, puisqu'on l'a beaucoup entendu, c'est le courrier dans votre boîte aux lettres, avec une carte bancaire qui ressemble tout à fait à la carte bancaire, tout à fait à la carte bancaire donc de votre banque, il n'y a pas de problème, il n'y a pas le nom dessus, il n'y a pas non plus de numéro, et elle est accompagnée donc d'un QR code. Donc, on vous dit, il faut cliquer sur ce QR code. Et une fois que vous allez là-dessus, vous avez un document à remplir qui ressemble tout à fait à un document de votre banque. Et là, on est en train de vous piquer toutes vos données bancaires, et on va vous vider votre compte en quelques minutes. C'est récent, ça vient de sortir.
Ça, c'est la nouvelle.
Ça vient de sortir.
Ce qui montre aussi l'évolution de ce type d'arnaque et des escrocs aussi. Et je me rappelle lorsqu'on avait discuté avec votre président qui nous disait, ils sont tellement inventifs qu'on dirait de véritables professionnels, et même des banquiers sont parfois bluffés par le discours que ces escrocs-là peuvent tenir.
Absolument, complètement d'accord avec vous. Et ils sont très au fait de l'actualité, c'est-à-dire qu'ils se servent de l'actualité, si je puis dire, pour inventer de nouvelles arnaques. Depuis qu'ils sont en fonction, si vous voulez, les péages où on n'a plus besoin de s'arrêter pour payer, vous savez, où on paye, etc., il y a eu plein d'arnaques cet été à partir de ça. C'était l'occasion de vous dire, vous n'avez pas payé votre péage, il faut payer le péage, etc. Et c'est tout ça, même si les sommes étaient minimes, pour pirater vos données bancaires.
Là, on parle des arnaques qui se font à distance avec quelqu'un au téléphone ou des SMS ou un courrier que l'on reçoit. Oui. Mais il y a aussi des arnaqueurs ou des escrocs qui sont un peu plus courageux, on va dire, et qui peuvent même se déplacer chez vous. On a entendu parler ces derniers mois, ces dernières années.
Oui,
aussi.
On peut très bien sonner à votre porte pour des raisons qui n'en sont pas. Je peux vous donner un cas puisque je l'ai bien vu et connu. On sonne à votre porte, quelqu'un sonne à votre porte et vous dit « Ah oui, oh là, vous avez eu des problèmes là, à votre maison, vous avez fait faire un traitement contre une mythe, ça n'a pas marché. » Et alors, on vient de la part de l'assurance. Alors, pardon, part de l'assurance, je n'ai pas demandé à l'assurance de quoi que ce soit. Alors, si vous êtes prudent, vous dites, attendez, de la part de quelle assurance et pourquoi faire. Et c'est-à-dire que leur but, c'est de pénétrer chez vous. Et puis après, la suite, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Hein, entre le vol, tout est possible, voilà. Ce qui veut dire que le moindre repérage, il suffit que chez vous, il y ait des traces, vous savez, de traitement contre les insectes, etc., leur donne des idées pour se dire un moyen pour rentrer, voilà.
Mais que faire alors si on a cliqué ou donné ses coordonnées bancaires, tout n'est pas, je vais utiliser ce terme foutu, Christian, mais il y a encore des méthodes à appliquer, ou vous contacter ou aller à la gendarmerie éventuellement. Christian, qu'est-ce que l'on fait si on a cliqué ou donné ses coordonnées bancaires?
On peut effectivement déposer une plainte à la gendarmerie, et puis on peut se rendre à sa banque pour signaler les faits et pour faire une opposition immédiatement. Et ensuite, on peut aller également sur des sites, notamment ce Perceval, pour signaler le problème. Et puis le plus adéquat est de se rendre à la banque, de signaler à son banquier le problème que l'on vient de subir.
De subir, oui.
Et pour que le banquier stoppe, par exemple, la carte bleue et stoppe tous les prélèvements qui pourraient venir.
Ouais.
Et des prélèvements ont déjà été effectués. Mais bon, il y a sûrement des prélèvements qui peuvent
advenir, oui. Ouais.
Donc, c'est pour stopper l'hémorragie.
Et il faut le faire au plus tôt pour que les assurances aussi des banques puissent rentrer en ligne de compte.
Il faut le faire au plus tôt. Et puis souvent, les arnaqueurs vous appellent ou vous envoient des SMS le soir ou alors le week-end, quand les banques sont fermées, pour que vous n'ayez pas le temps de contacter votre banque ou de vous rendre directement à la banque. Ils font ça souvent le soir. Mais bon, il faut contacter le plus rapidement possible son conseiller bancaire, hein, ou se rendre à la banque, ou l'appeler directement avec son propre numéro. Appeler directement le conseiller bancaire ou se rendre directement à la banque.
Et là, on ne parle que des arnaques plus ou moins numériques, téléphoniques, en tout cas à distance, mais il existe bien d'autres types d'arnaques qui fleurissent là ces derniers temps. On continue d'en parler avec vous, Christian et Josette, de l'UFC Que Choisir, dans ce magazine de CFM Radio.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Parlons aujourd'hui avec les membres bénévoles de l'association UFC Que Choisir qui défend les droits des consommateurs et face aux multiples arnaques qui se multiplient ces dernières années. Aujourd'hui dans ce magazine, l'idée c'est d'entendre parler déjà un des méthodes qui sont utilisées, mais aussi de ce que l'on peut faire pour se prémunir, prévenir et même solutionner certaines arnaques si on en est victime. Et là, on ne parle pas que des personnes âgées, Christian et Josette, parce que pendant très longtemps, on pensait que c'était les arnaqueurs ne ciblaient que ces publics-là, parce que parfois isolés, parfois pas au fait de l'utilisation de certains outils, notamment numériques. Mais aujourd'hui, ça concerne véritablement tout le monde. Et il y a une arnaque dont on parle de plus en plus, c'est lié à la rénovation énergétique, aux panneaux solaires ou au CPF. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ça?
Oui, absolument. Il y a les arnaques aux économies d'énergie, notamment concernant les panneaux photovoltaïques, sont toujours d'actualité.
Alors, quels sont les signaux d'alerte là, pour se rendre compte que, tiens, là, c'est quand même un peu bizarre là.
Alors, ce qu'il faut, lorsque vous recevez, soit c'est vous qui est contacté sur une publicité, où vous avez laissé vos coordonnées sur une publicité, la personne vous rappelle. Et quand la personne vous rappelle, elle vous dit je peux me rendre chez vous, demain je peux être chez vous. Donc déjà, pour avoir un rendez-vous aussi rapide, c'est quand même un petit peu surprenant. Et la personne, lorsqu'elle vient chez vous, elle vous dit, une fois que vous avez signé un contrat sans vous en rendre compte, elle vous fait signer des papiers alors que vous ne savez pas ce que c'est. Et elle vous dit, bon, on peut venir poser directement chez vous demain matin. Donc là, les entreprises qui ont pignon sur rue et qui sont, entre guillemets, honnêtes, ces entreprises-là ne proposent pas un rendez-vous aussi rapide. Mmh, donc si l'entreprise vous propose un rendez-vous très rapide, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous dise bon, c'est un petit peu bizarre que l'entreprise soit disponible aussi rapidement.
Est-ce qu'il existe des démarches peut-être pour vérifier le sérieux d'une entreprise? Est-ce qu'on a un moyen de vérifier le sérieux d'une entreprise, Josette?
Oui, vous pouvez donc regarder déjà si la société existe en allant sur des sites société.com par exemple, ou Papers, etc. On peut vérifier la société. On peut aussi vérifier, il n'y a pas que le numéro SIRET qui peut être important, c'est de vérifier aussi son activité. Le code APF, par exemple, vous donne de l'activité. Je peux vous donner un exemple, quelque chose qui n'a rien à voir, on n'est plus dans l'énergie, mais on a eu un cas où quelqu'un fait une commande d'un appareil jardin, on va dire un outil de jardin, à une société, ça l'intéresse, ça lui plaît, puis finalement, il se rétracte, il dit donc, l'homme de Belge sur la demande a toujours le droit, puisqu'on a les 14 jours, puisque c'est par Internet, il se rétracte, et on lui dit, ah, mais oui, on va vous rembourser, il n'y a pas de problème. Un jour passe, deux jours passent, il se dit quand même, ça ne vient pas vite. Il va regarder sur Internet, le site en question, il y a bien un numéro SIRET, mais il est étonné par l'activité. Il s'aperçoit que l'activité de cette, là où il a commandé, où il y avait une magnifique photo avec plein d'appareils de ce type-là, un numéro SIRET, etc., une adresse et tout, il se rend compte que l'activité, c'est de la production agricole. Alors, il y a quand même une anomalie. Et c'est là où il nous contacte, mais je ne comprends pas. Bon, mon remboursement ne vient jamais. Bon, il n'y a pas de remboursement. Et en plus, quand je regarde l'activité, je suis étonnée que le paysan, il vend avec, il y a des images magnifiques de matériel. Et en effet, donc, on a pu joindre d'ailleurs ces gens-là qui ne répondaient pas au téléphone. Et un jour, par hasard, on a pu les avoir. Et ils avaient été piratés. C'est-à-dire qu'ils avaient changé le type de leur société 6 mois auparavant. Donc ça paraît dans tous les journaux, c'est obligatoire de faire paraître au moins dans 3 journaux le changement donc, de société avec plein de renseignements, bien entendu. Donc un pirate, un escroc, donc, a utilisé tout ce qui concernait la société, le SIRET, l'adresse, etc., a collé des photos génériques trouvées, c'est facile, ça, etc. Il s'est créé un site et à partir de ça, donc, il avait un site de vente sur Internet.
Et à partir de là, parlons aussi, lorsqu'on est confronté comme ça à des les artisans éventuellement, du fameux devis qu'il faut signer tout de suite avec un acompte à verser. On en parlait en off juste avant. Et oui. Ça aussi, ça peut être une démarche frauduleuse parce qu'une fois qu'on a payé l'acompte, on n'est pas sûr de revoir l'entreprise.
Ça s'est produit, on a eu des cas... c'est désolant parce que c'est bien sûr de l'abus et c'est de l'abus pour des personnes qui sont un peu faibles et qui ne sont pas trop regardantes quelquefois. Mais je crois que Christian va vous en parler. Donc on l'entend poser la question et j'avoue que c'était assez révoltant comme situation. Et on s'aperçoit, bien entendu, qu'on a trouvé une petite réponse récemment à la suite d'une question posée par un député. Donc
Oui, un député du Finistère a posé deux fois une question à l'Assemblée. Et donc, vous savez que lorsqu'on signe un devis avec un artisan ou une entreprise, on a pour habitude, le consommateur a pour habitude de donner 30% d'acompte à l'entreprise. Et cet acompte pour travaux permet de sécuriser la transaction. Son montant peut également permettre à l'artisan d'acheter les fournitures nécessaires à la réalisation du chantier. Mais par contre, lorsque l'artisan ou l'entreprise, après avoir reçu l'acompte, est en situation de difficulté financière, soit en redressement judiciaire, soit en liquidation judiciaire, l'acompte versé par le consommateur est totalement perdu et irrécupérable. Donc c'est pour ça que le député avait posé une question concernant le montant de l'acompte. Voilà, la proposition du député était par exemple de baisser l'acompte de 30% à 5%. Mmh. Alors voilà la réponse du gouvernement, c'est que la loi effectivement autorise l'entreprise à percevoir un acompte, mais il n'y a aucune loi qui dit que l'acompte est de 30 ou 40%.
Il n'y a pas de barème.
Il n'y a pas de barème absolument. Quoi, ouais. Voilà, il n'y a aucune loi qui vous dit que vous devez verser un acompte de 30%.
Mais comment est-ce qu'on va être sûr donc de revoir l'entreprise une fois ? Parce qu'on peut le comprendre, c'est une entreprise qui demande une avance pour acheter du matériel, etc. Parce qu'il n'y a pas toujours la trésorerie. Et ça permet aussi aux clients de s'engager véritablement sur le chantier qu'ils souhaitent réaliser. Quoi.
Voilà, mais là, il peut y avoir un accord entre l'entreprise et le consommateur sur le montant de l'acompte.
Voilà, donc ça reste à leur discrétion. Ouais.
Ah, voilà, absolument. Oui. L'artisan n'est pas obligé de vous demander 30 ou 40%. Mmh. Et il n'y a pas de loi là-dessus.
Mais une fois qu'on lui a versé cet acompte, on n'est pas sûr de le revoir, cet artisan, hein, quel que soit même d'ailleurs son degré de probité, parce que des fois, ils ont des chantiers en veux-tu, en voilà, et puis c'est au bout de 6 mois peut-être qu'il revient. Mais est-ce qu'on peut se prémunir de cette arnaque-là sur l'acompte d'une manière ou d'une autre, Josette ?
Le problème que ça pose, si vous voulez, c'est que même si c'est quelque chose qui permet en quelque sorte de sceller le contrat entre les deux parties, et si ce n'est qu'un usage de verser un acompte, ce n'est qu'une question d'usage. Donc et normalement, cet acompte doit servir à acheter les matériaux qui sont spécifiques au chantier, pas les matériaux courants. On est bien d'accord là-dessus. Alors pour se prémunir, il faut d'abord chercher, s'adresser à un artisan qu'on connaît ou qui est connu autour de vous, qui est installé depuis un certain temps. D'accord. Je vous dirais même que certains d'entre eux, s'il n'y a pas de matériaux spécifiques, ne vous demandent jamais d'acompte. Ça existe encore. Il y a des artisans honnêtes, vraiment, heureusement. Et après, donc, il va falloir être très vigilant parce que dans la promesse qu'il a... La devise, c'est une sorte de promesse, si vous voulez, dans laquelle il va préciser les délais de réalisation du chantier. Quand est-ce qu'il va commencer ? Il faut que ce soit très, très précis de façon à ce que, s'il n'y a pas respect de ces délais, vous puissiez vous retourner contre lui à temps. Voilà. Après, on peut... Enfin, si on n'est pas très méfiant, on peut aussi tomber sur un escroc. Ce dont il faut se méfier, je pense, c'est des gens qui viennent chercher le travail. C'est-à-dire que vous n'avez rien demandé ou autre, on sonne à votre porte, on vous dit « moi je suis couvreur, je suis peintre, je suis machin, je peux tailler votre haie, je peux peindre votre façade, etc. » Là, il faut être quand même très très vigilant parce que ils sont de passage, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, etc. Allez vous-même, je pense, chercher l'artisan. Il y en a suffisamment. Renseignez-vous un petit peu auparavant. Regardez sur Internet sa société, si elle fonctionne, si elle existe, etc. Avant. Voilà.
Et parfois, quand on cherche soi-même, on tombe dans le piège. Et cette fois-ci, je voudrais qu'on aborde les arnaques à la voiture d'occasion. On est tous là à chercher des bons plans, la bonne voiture sur le bon coin ou autre. Mais c'est aussi un terrain miné à ce niveau-là. Quelles sont les arnaques les plus fréquentes là aujourd'hui concernant les voitures d'occasion, Christian ?
Les arnaques les plus fréquentes, ce sont des mandataires ou des petits garagistes qui ont des voitures, mais bon, des voitures qui ne sont pas forcément en bon état de marche.
Le compteur qui est trafiqué éventuellement, oui. Tous les travaux qui n'ont pas été faits.
Des véhicules qui ont des problèmes de fonctionnement ou qui ont des réparations immédiates à faire. Ce sont souvent des véhicules à petit prix et qui, au bout de 15 jours de fonctionnement, sont obligés de revenir au garage parce que le moteur ne marche plus, parce que voilà. Mmh. Il faut être très 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 vigilant là-dessus.
Mais avant de s'engager, est-ce qu'il y a des vérifications que l'on doit absolument faire pour éviter les mauvaises surprises?
Enfin, on parlait donc du garage, par exemple. Il y a aussi des garages. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des garages fantômes. Je crois que le cas s'est produit, c'est bien compris, à Villefranche-de-Rouergue, il n'y a pas très très longtemps, hein, c'est pas très vieux, où le garage est ouvert. Vous pouvez aller acheter une voiture d'occasion, vous voyez, vous êtes content, vous commandez, vous payez, parce que les gens avaient payé là, apparemment la totalité de la somme. Puis quand vous revenez quelques jours après, il n'y a plus de garage, ça n'existe plus, et on ne retrouve plus donc les gens. Et ça représente des sommes très très importantes.
Hein. Oui, alors ce qu'il faut éviter, c'est de donner un acompte. Parce que souvent les particuliers achètent, voient sur Internet, dans un garage qui n'est pas forcément proche de chez eux, une voiture qui les intéresse. Donc ils contactent le professionnel et le professionnel demande de verser un acompte pour réserver la voiture. Bon, ce sont des choses qu'il ne faut jamais faire sans voir le véhicule. Surtout si le garagiste se trouve à 300, 400, 500 km, comme ça se produit des fois. On a eu un cas où une personne d'ici a trouvé sur Internet la voiture qu'il cherchait, mais c'était dans le Pas-de-Calais. Et donc, sur Internet, il a vu que les photos. Donc, il a donné un acompte. Et bon, effectivement, et la voiture, lorsqu'il y est allé, la voiture ne correspondait pas du tout à la photo qu'il avait vue. Et il n'a pas pu récupérer son... Il n'a pas pris la voiture, mais il a eu du mal à récupérer son acompte.
À récupérer son acompte, voilà,
donc
ouais.
Surtout ne jamais donner d'acompte lorsqu'on n'a pas vu le véhicule. Lorsque le véhicule est très loin.
On l'a pas testé.
Vous n'avez vu que la photo du véhicule, c'est pas suffisant. Il faut voir le véhicule, l'examiner un petit peu avant de donner un acompte pour le réserver.
Et encore là, c'est un véhicule qui existait, parce qu'on a eu des cas où le véhicule en réalité n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a pareil, c'est le faux site, hein, on vous met un véhicule. Et puis, en général, ce qui peut vous alerter, c'est le prix. On met un prix qui est bien inférieur donc,
au
prix,
marché,
bien, bien
ouais.
sûr, à l'Argus, en quelque sorte. Et en plus, on met souvent, il y a des conditions d'urgence, en quelque sorte. Alors, ce qui peut attirer le client, c'est pour un divorce, c'est pour une mutation, c'est à cause d'un décès, et la voiture est obligée de s'en débarrasser très, très vite parce qu'on a besoin d'argent ou autre. Donc, on vous la vend à un prix inférieur. Et la voiture peut n'avoir jamais existé. Il suffit de prendre une photo. Le photo, toujours pareil, hein, un faux site, etc. Et avec ça, donc, on vous vend un véhicule. Voilà.
Attention donc au bon plan.
Oui, attention aux bons plans. C'est le même système que les brouteurs, les brouteurs à l'amour. C'est
ouais,
pareil. Voilà.
Ouais. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut aussi se renseigner, hein, parce que le bouche-à-oreille, ça reste l'un des meilleurs moyens de prévention aussi. Et puis, on l'a dit, hein, quand on est victime d'une arnaque, il faut soit rapidement contacter sa banque, soit porter plainte systématiquement. Hein, ça, il faut le retenir. Ou alors, prendre contact avec l'UFC Que Choisir. Et alors, comment est-ce que vous accompagnez des victimes d'arnaques diverses et variées? Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'UFC Que Choisir?
Je voudrais revenir juste une seconde sur les véhicules d'occasion. Si l'on veut consulter l'historique du véhicule, on peut aller sur le site Istovec. Vous rentrez votre plaque d'immatriculation ou alors le numéro VIN, c'est le numéro d'identification du véhicule. Et là, vous avez toute l'historique du véhicule.
Oui, par tous les propriétaires précédents.
Voilà, les différents propriétaires, vous avez toutes les factures, toutes les interventions. Et ce qui est important lorsque vous achetez un véhicule d'occasion, c'est de se procurer, de demander au propriétaire toutes les factures d'entretien du véhicule. Et toutes les factures d'entretien, et évidemment le contrôle technique de moins de 6 mois qui est obligatoire pour la vente d'un véhicule. mais bien demander toutes les factures d'entretien pour suivre l'évolution du véhicule. Et on peut aller également, je le redis, sur le site Istovec.
Istovec,
qui permet de lister, de faire tout l'historique du véhicule.
Du véhicule en
ça,
question.
Ça, c'est très important.
Alors, dis-nous, Christian, comment est-ce que l'UFC Que Choisir accompagne les victimes d'arnaques? Déjà, il faut adhérer à l'association?
Absolument, oui. On peut donner des renseignements pour très, très basiques, mais ensuite, lorsque un consommateur a un litige, il vient nous voir et là, on demande à la personne d'adhérer à l'association pour pouvoir ensuite prendre en charge le litige.
Et prendre en charge le litige, ça passe par quoi? Un accompagnement juridique, une aide dans des différentes démarches, contact avec banque, assurance?
C'est l'UFC qui se charge de toutes les démarches. Une fois que l'adhérent a donné toutes les pièces justificatives, c'est l'UFC qui prend en charge le dossier et qui se charge de faire les démarches, de contacter la partie adverse et d'essayer de résoudre le problème à l'amiable.
En sachant qu'au sein de votre association, il y a de nombreux juristes qui sont aussi là pour éplucher les dossiers et les suivre aussi.
Ce sont deux juristes, oui, qui sont salariés de l'association. Et ce sont ces deux juristes qui s'occupent du suivi des litiges.
Alors, quelle va être un peu la teneur de l'Assemblée générale que vous tenez là le 27 février, qui est l'occasion non seulement de faire le bilan de l'année? Est-ce que c'est une bonne année? Est-ce qu'on peut parler d'une bonne année?
Alors, de l'UFC Que Choisir? On constate quand même depuis quelques années maintenant que, comme toute association, on a quand même une diminution de nos adhérents. Alors, cette année, elle est moins importante qu'elle ne l'était de les trois années précédentes, par exemple. C'est moins important. On a eu davantage de primo-adhérents, c'est les gens qui adhèrent pour la première fois, puisque soit chez nous on adhère une fois, mais on peut après continuer à adhérer tous les ans à un tarif un peu inférieur. Voilà. Donc après, donc au point de vue, fonctionnement, on a moins de dossiers d'année en année. C'est vrai, quand on regarde, depuis 6 ans, on pourrait dire qu'on a une baisse des dossiers presque de 40%, mais en réalité, c'est pas du tout le même type de dossier. Les gens aujourd'hui peuvent trouver directement sur Internet, par différents moyens, il y a des sites d'avocats, etc., qui le proposent, peuvent trouver de l'aide. Donc quand ils viennent chez nous, c'est vraiment que le dossier est dur, important, et ils ont vraiment besoin de l'appui local, donc du juriste. Voilà. Quand c'est des petits problèmes, on s'aperçoit qu'ils le règlent autrement. Voilà.
Votre assemblée générale, le 27 février, elle va se dérouler à quelle heure et où ?
17h, dans la salle du Patus Crémat, donc rue des Muettes à Albi.
À Albi, voilà. Ouais.
Centre-ville.
Et puis, on rappelle, à l'UFC Que Choisir, vous avez vos bureaux à différents endroits dans le Tarn, et puis surtout, vous tenez des permanences ici et là.
On va peut-être, vous, si vous voulez qu'on les rappelle, peut-être,
ben oui,
voilà.
Oui.
Donc, nous avons donc deux bureaux, si je puis dire, permanents, donc c'est Albi et Castres, et ensuite, donc, nous venons une fois par mois, le deuxième mercredi du mois, donc aux cabanes, donc
à l'escale
de la 4C,
oui,
tout à fait. Nous allons aussi, donc, deux fois par mois, deuxième et quatrième vendredi à Carmaux. Voilà. Nous allons aller aux mêmes dates, donc à Grouillé, dans les locaux de France Service. Nous allons les premiers et troisièmes vendredis du mois, donc à Saint-Sulpice. Nous allons les premiers et troisièmes jeudis du mois, donc à Lavore. Et je crois que j'ai fait le tour.
Et le vendredi matin à Gaillac aussi.
Le premier et troisième, donc.
Vendredi
du mois, nous allons aussi donc à Gaillac. Donc ça nous fait actuellement beaucoup de lieux, si je puis dire, donc de permanence. Voilà.
Pour être au contact de ces consommateurs que vous défendez. Et puis il y a un site internet aussi, un site national quechoisir.org. Et à partir de là, on peut être orienté, soit au niveau départemental, soit informé sur différents types de procédures à faire en cas de telle ou telle arnaque que l'on a subie. Eh bien, on espère vous recevoir à nouveau ici pour continuer à parler de certains types d'arnaques. Oui, Christian, tu as une dernière intervention?
Oui, on a juste également un site internet UFC Que Choisir Tarn. Voilà.
Oui. Et puis il y a une page Facebook aussi, je crois.
Facebook aussi, oui. Nous avons une collègue bénévole
qui
gère la page.
Merci à tous les deux, Christian et Josette, secrétaires de l'association UFC Que Choisir dans le Tarn, pour toutes ces informations qui nous permettent de nous prémunir et surtout d'éviter de se faire arnaquer. Ce n'est jamais très plaisant ni de perdre de l'argent ni d'être pris pour une très bonne journée à vous.